OA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin, Gabi Dorsil et Anastasie Tudiech, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette édition du jeudi 15 décembre 2016. Au sommaire ce soir.
En Gambie, Adama Barrow se confie en exclusivité à VOA Afrique. Il craint pour sa sécurité, mais espère que Yahya Jammeh respectera sa promesse de céder le pouvoir.
Je suis toujours inquiet pour ma sécurité. J'utilise des agents de sécurité locaux.
Une enquête du réseau Bloomberg lève le voile sur la fortune du président congolais Joseph Kabila et plusieurs membres de sa famille.
Les opérateurs à qui la demande avait été faite avaient exigé de l'ARPTC une demande écrite.
Par ailleurs, la RDC a décidé de suspendre certains services sur les réseaux sociaux à partir du 18 décembre.
Amateurs de foot, à vos marques. La vente des billets pour la CAN 2017 a commencé aujourd'hui au Gabon.
Finalement, les malades et blessés ont commencé à quitter Alep Est en Syrie.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, le gouvernement compte suspendre certains services sur les réseaux sociaux à partir du 18 décembre, la veille de la fin du mandat du président Joseph Kabila. Les communications par e-mail ne devraient pas être affectées, mais ce sera le blackout pour les transmissions d'images, nous dit Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans une correspondance attribuée au responsable de l'ARPTC, organe de régulation des postes et télécommunications, adressée aux différents opérateurs, Oscar Manikunda demande à ces derniers d'instruire leurs services techniques de, je cite, procéder au blocage momentané de tous les échanges d'images et de vidéos via les réseaux sociaux. Cette instruction devrait entrer en application à dater du 18 décembre 2016 à partir de 23h59. La RPTC demande, dans la mesure où le blocage partiel des services ne sera pas possible, de bloquer tout accès intégral aux 10 réseaux sociaux. Les opérateurs à qui la demande avait été faite avaient exigé de l'ARPTC une demande écrite. Joint par Top Congo FM, le vice-premier ministre en charge du secteur des postes et télécommunications a déclaré ne pas être informé d'une telle mesure. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Les billets de la CAN 2017 sont en vente dans la capitale gabonaise. Une bonne nouvelle pour les amateurs de foot. Timothée Donangma y a joint Yves Antonio Ogula, un journaliste à Libreville.
Au total, 500 000 billets sont commercialisés dès aujourd'hui par le comité d'organisation de la Coupe de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit donc du COCAN qui précise que les billets sont à la portée de toutes les bourses en raison bien évidemment du contexte économique et bien évidemment de la situation post-électorale au lendemain de l'élection présidentielle, alors que une certaine frange de la société invite les uns et les autres à ne pas se rendre dans les stades. Voici pourquoi le comité d'organisation a tablé sur 500 francs pour permettre aux citoyens lambda d'investir les stades de Libreville, de Port-Gentil, de Franceville et d'Ouyem. Les billets varient entre 500 et 40 000 francs selon, bien évidemment, les catégories. À noter que 11 sites ont été retenus pour la vente de ces billets. Il s'agit des trésoreries des villes et des perceptions locales. Libreville, la capitale, possède donc 5 sites. À Franceville, Ouyem et Port-Gentil, il y aura 2 sites par ville retenus pour cette Coupe d'Afrique des Nations.
Le journaliste gabonais Yves Antonio Ogula.
En Somalie, à Mogadiscio, au moins 6 personnes ont été tuées et plusieurs blessées dans un attentat qui n'a pas encore été revendiqué, mais porte la signature des islamistes Chebab. Un peu plus tôt, un kamikaze avait fait sauter son véhicule piégé dans un bâtiment administratif au centre de la capitale, faisant plusieurs blessés. Ces nouvelles attaques surviennent alors que la Somalie est engagée dans un processus d'élection indirecte qui doit déboucher sur la désignation d'un nouveau président avant la fin de ce mois.
Le Malawi a ouvert aujourd'hui un couloir aérien destiné à tester l'utilisation de drones lors de crises humanitaires pour transporter des échantillons de sang pour le dépistage du sida chez les enfants. Plus de 1 million de Malawites sont atteints du sida, soit 10% de la population active, un des taux les plus élevés au monde. L'UNICEF estime qu'il faut actuellement 11 jours pour transférer un échantillon de sang d'un centre de santé à un laboratoire et plus de 4 semaines pour transmettre les résultats aux patients.
Deux avocats iraniens accusés par un tribunal de Nairobi au Kenya de préparer un acte terroriste sont retournés aujourd'hui dans leur pays après avoir été acquittés puis relâchés. Sayed Nasrallah Ebrahimi et Abdol Hossein Golli Safae avaient été arrêtés puis placés en détention provisoire le 1er décembre pour avoir filmé l'ambassade israélienne selon l'acte d'accusation. Ils étaient à Nairobi pour le compte des familles de deux prisonniers iraniens au Kenya dans une mission de suivi juridique. L'ambassadeur kényan en Iran avait été convoqué au ministère des Affaires étrangères au sujet de cette affaire, dans laquelle Téhéran voyait l'intervention hostile d'une tierce partie, sans mentionner spécifiquement l'État hébreu.
Le ministère égyptien de l'aviation a indiqué que des traces d'explosifs ont été détectées sur les restes de victimes du crash du 19 mai. Le vol MS-804 qui faisait la liaison Paris-Le Caire s'est abîmé en Méditerranée après avoir soudainement disparu des écrans radars. Les 66 personnes à bord, dont 40 Égyptiens et 15 Français, ont été tuées. Pour les autorités égyptiennes, cette information conforte la piste terroriste qu'elles avaient d'ailleurs évoquée dès les débuts de l'enquête.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les premières évacuations des quartiers rebelles d'Alep ont commencé aujourd'hui. Cette opération intervient un mois après le lancement de l'offensive qui doit mener à la victoire du régime de Bachar al-Assad. Le point avec Dili Dico.
Le premier convoi parti ce matin est composé d'ambulances et de bus transportant 951 personnes, dont 200 rebelles et 108 blessés. Leur acheminement vers Ramoussa s'est fait via le quartier d'Al-Amiriya, encore tenu en partie par l'opposition. Selon Ahmad Al-Debis, à la tête d'une unité de médecins et de volontaires qui coordonnent les évacuations, les véhicules sont arrivés peu de temps après dans l'ouest de la province d'Alep. En tête du convoi se trouvaient des véhicules de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge syrien, suivis par 13 ambulances et 20 autobus. Quelques 4000 rebelles et leurs familles sont concernés par cette opération qui devrait prendre plusieurs jours. Le président Bachar al-Assad s'est félicité de la victoire de ses troupes à Alep et a affirmé que les Syriens ont écrit l'histoire en chassant les rebelles de la deuxième ville du pays.
Toujours en Syrie, 4 civils ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe à Homs, dans le centre du pays. L'attentat a eu lieu près d'un centre du Croissant Rouge, dans un quartier à majorité alaouite, la communauté du président Bachar al-Assad.
Encore une fois, un responsable britannique se prononce en faveur d'une transition en Syrie sans Bachar al-Assad. « Nous ne voyons pas d'avenir pour le président Assad en Syrie », a déclaré aujourd'hui le ministre britannique de la Défense Michael Fallon, à l'issue d'une réunion avec une quinzaine de ses homologues sur la lutte contre le groupe djihadiste État islamique. L'officiel britannique répondait à la presse à Londres en compagnie du chef du Pentagone.
La troisième réunion du Conseil OTAN-Russie pour l'année 2016 aura lieu lundi au siège de l'Alliance Atlantique à Bruxelles, a annoncé aujourd'hui le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg. Des ambassadeurs des deux parties discuteront particulièrement de l'Ukraine. Ce conseil est en veilleuse depuis l'annexion de la Crimée par la Russie il y a plus de 2 ans. La réunion intervient à un moment de tension, ravivée entre autres par les actions des Russes en Syrie et l'ingérence de Moscou, selon la CIA, dans le processus électoral américain.
L'Ukraine souhaite encourager les échanges de prisonniers avec les rebelles pro-russes, c'est ce qu'a déclaré un membre du Parlement ukrainien. Irina Gerachenko a annoncé aujourd'hui que son gouvernement compte libérer 15 personnes sur un total de 228 encore détenues par Kiev. La députée a précisé que leur libération aura lieu dans les prochains pourparlers de paix avec les rebelles, prévus la semaine prochaine à Minsk.
Bonne nouvelle pour la patronne du Fonds monétaire international FMI, Christine Lagarde. Elle ne sera pas poursuivie au pénal pour négligence dans une affaire de détournement de fonds publics. Le parquet a annoncé la décision ce jeudi, invoquant une insuffisance de preuves.
Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump a mis en doute à nouveau aujourd'hui les conclusions de la Maison-Blanche selon lesquelles la Russie est à l'origine des piratages informatiques qui ont visé pendant la campagne électorale sa rivale démocrate Hillary Clinton. Nani Talani a les détails pour nous.
Si la Russie ou toute autre entité faisait du piratage, pourquoi la Maison-Blanche a-t-elle attendu si longtemps pour agir? Pourquoi ne se sont-ils plaints qu'après la défaite d'Hillary, a écrit Donald Trump sur Twitter. En fait, dès le 7 octobre, les 17 agences américaines de renseignement avaient conclu que Moscou avait piraté les comptes de personnalités et d'organisations politiques dans le but d'interférer dans le processus électoral américain. Des dizaines de milliers de messages ont été dérobés puis mis en ligne, jetant une lumière sur les débats internes du camp Clinton. Mais pour Donald Trump, ce n'est pas la Russie qui est à l'origine de ces cyberattaques, mais les démocrates parce qu'ils ont subi une des plus grandes défaites de l'histoire politique des États-Unis. Mais Barack Obama a lui-même corrigé Donald Trump. Il a rappelé que son gouvernement avait sonné l'alarme en octobre sur la responsabilité des Russes dans le piratage du Parti démocrate. C'était un mois avant l'élection. Cela n'avait rien d'un secret, a répété M. Obama.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est tout de suite et c'est la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Niger vont bénéficier d'environ 209 milliards de francs CFA financés sur 4 ans par la Banque Ouest-Africaine de Développement. Ce montant servira à appuyer les projets de développement d'infrastructures socio-économiques et de sécurité alimentaire, électrification rurale et le réaménagement de réseaux de distribution d'énergie électrique de la Sénélec. Au Nigeria, un audit a révélé une dette cachée de 7,22 milliards de dollars dans les comptes publics. Selon la ministre des Finances, Kemi Adeosun, ces créances sont dues à des entreprises de services, des négociants de pétrole, des exportateurs et des sociétés de distribution d'électricité. Enfin, le holding sud-africain Rand Merchant a racheté 30% du capital de la firme britannique Hastings, spécialisée dans la vente des produits d'assurance automobile.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Coupe du monde des clubs de football, le Real Madrid se qualifie logiquement pour la finale.
Le Real Madrid s'est qualifié pour la finale en disposant des Mexicains d'América 2-0. La demi-finale s'est jouée cette nuit à Yokohama. Les buts signés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo en toute fin de rencontre. Le club espagnol, qui porte désormais à 36 matchs sa série record d'invincibilité, affrontera l'équipe japonaise des Kashima Antlers. Ce sera dimanche lors de la finale. On rappelle, Chérubin, que le Real vise son deuxième titre dans l'épreuve, créé en 2000, après celui décroché en 2014. L'année dernière, c'est le FC Barcelone, le grand rival du Real Madrid, qui l'avait emporté.
Incertitude pour l'Ivoirien Bailly sur sa participation à la CAN 2017.
Blessé et absent plusieurs semaines en raison d'une blessure à un genou, le défenseur ivoirien de Manchester United a rejoué hier contre Crystal Palace à l'occasion de la 16e journée de la Première Ligue, mais il s'est à nouveau blessé. On ne sait pas à quel point c'est sérieux, a déclaré l'entraîneur des Red Devils, José Mourinho. En tout cas, le joueur sera fixé très prochainement sur la nature de sa blessure et surtout sur sa participation ou non à la CAN 2017.
Résultat en basket, NBA, championnat nord-américain.
Cleveland s'est incliné à Memphis 85-93, enregistrant sa 6e défaite de la saison et mettant fin à une série de 5 victoires d'affilée. Les Spurs de San Antonio ont décroché leur 20e succès de la saison contre Boston, 108-101. Les Raptors de Toronto l'ont emporté à Philadelphie, 123-114. Et puis à Houston, James Harden s'est lui distingué avec un nouveau triple-double contre Sacramento. C'est son 5e cette saison. Victoire des Rockets, 132-98. Enfin, dernier résultat, les Clippers de Los Angeles qui se sont imposés à Orlando, 113-108.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pinault. Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Merci de nous rejoindre. Si vous venez à peine de vous brancher sur VOA Afrique, Anastasie Tudiège et Chérubin Gaby Dorcil au studio 13. Place maintenant au dossier du jour. Première escale ce soir, Anastasie, c'est la Gambie.
C'est la Gambie, oui. Vendredi dernier, dans une déclaration télévisée, le président sortant Yahya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, avait annoncé qu'il rejetait les résultats de l'élection du 1er décembre, alors qu'une semaine plus tôt, il avait publiquement reconnu sa défaite face à Adama Barrow. Depuis, c'est le ballet diplomatique à Banjul pour tenter de désamorcer la crise. Une délégation de 4 chefs d'État africains a rencontré les deux hommes. Dans une interview exclusive sur VOA Afrique, Adama Barrow s'est confié à Salwa Jafari.
Je ne sais pas exactement pourquoi il a changé d'avis, mais je pense que c'était une erreur. Peut-être certaines personnes l'ont convaincu de changer d'avis, je ne sais pas, mais je pense que c'était une erreur.
Croyez-vous qu'il ait changé d'avis par crainte de poursuite?
Je ne pense pas, parce que dans toutes les interviews, je n'ai jamais dit une chose pareille. C'était le président de la Gambie et maintenant, nous allons le traiter comme l'ancien président de ce pays. En ce qui me concerne, ce n'est pas quelque chose que je compte faire. Et dans toutes mes interviews, j'ai été très très clair à ce propos.
Êtes-vous préoccupé par votre sécurité?
Je suis toujours inquiet pour ma sécurité. J'utilise des agents de sécurité locaux, la sécurité que j'utilisais pendant la campagne. Je n'ai pas de sécurité officielle. Donc oui, je suis toujours inquiet pour ma sécurité.
4 chefs d'État ont visité le pays pour tenter de dissuader M. Jammeh. Vous les avez également rencontrés, mais leur plaidoyer n'a pas eu d'impact. Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
La réunion que nous avons eue était une très bonne réunion. Ils voulaient connaître les faits des partis concernés, y compris la commission électorale. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que nous avons fait passer notre message. Le message était clair. Je suis le président élu et Yahya Jammeh est le président sortant. Il a accepté sa défaite, m'a félicité et a fait volte-face et a dit qu'il souhaite annuler l'élection.
Quel message avez-vous pour le peuple gambien?
Mon conseil, il a été président pendant 22 ans. Les Gambiens ont décidé autrement, ils l'ont retiré du pouvoir. Ils devraient faire preuve de bonne foi, la Gambie c'est plus important. Ils devraient mettre de côté tout intérêt égoïste et ils devraient être un homme de principe et accepter la défaite. Il aurait dû m'appeler pour me féliciter et laisser les choses ainsi.
Et en exclusivité sur VOA Afrique, la voix du président élu de la Gambie, Adama Barrow.
Dans Washington Forum ce jeudi, on revient sur la volte-face en Gambie de Yahya Jammeh. L'ancien président est sous pression après sa brusque annonce de ne plus reconnaître sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. La CDAO a dépêché une mission à Banjul. Qui peut le convaincre d'accepter définitivement le résultat des urnes? Quel est le rôle de l'armée dans cette crise? Quelle est la marge de manœuvre de l'opposition dans ce bras de fer? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
On met le cap sur la RDC. La fortune du clan Kabila dévoilée. Le président congolais Joseph Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a rapporté, écoutez bien, des centaines de millions de dollars, selon une enquête publiée par l'agence Bloomberg à 5 jours de la fin du mandat de M. Kabila. Depuis 2003, la famille Kabila a mis en place un réseau international d'affaires avec des participations dans 70 entreprises, au moins, s'écrit Bloomberg. Nicolas Pinault a joint l'un des auteurs de cette enquête, le journaliste Franz Wild.
Je crois que c'est important de dire que les plus grands projets, alors on parle de Tenke Fungurume qui est géré par Freeport, peut-être Mutanda qui est géré par Glencore. La famille présidentielle n'est pas inclue. Il y a des autres questions avec ces projets, mais pas par rapport à la famille présidentielle. Alors il s'agit la plupart sur les projets sans partenariat avec des grandes sociétés internationales. En fait, ce qu'on a trouvé qu'il y a quelques instants où les activités de la famille présidentielle ont même créé des problèmes pour des autres sociétés internationales. Par exemple, il y a des Beers qui voulaient avoir un partenariat avec la femme de M. Kabila et ça n'a pas marché. Une autre société canadienne qui voulait avoir un partenariat avec la sœur Janet de Kabila. Selon la société canadienne, ça n'a pas marché parce que la sœur voulait, chaque fois qu'ils ont fait une offre pour le partenariat, Janet voulait avoir plus de l'argent, plus de paiement. Ça n'a pas bien marché pour l'investissement au Congo.
À combien estime-t-on la fortune du clan Kabila?
Ça, c'était vraiment un grand, grand problème. C'est très, très difficile à savoir. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont beaucoup des sociétés qui font absolument rien, où il y a rien derrière. Ce qui est aussi clair, c'est qu'ils ont beaucoup de bénéfices dans des secteurs qu'on n'a même pas découverts. Alors, nous avons trouvé qu'une opération minière au Katanga, où des creuseurs artisanaux produisent de cuivre et de cobalt, là, c'était même plusieurs, 300 millions de dollars. Et ça, c'était une opération, peut-être la plus grande. C'est très difficile à savoir. Dans le secteur des diamants, ils ont beaucoup de permis. Ils ont presque 100 permis diamantaires, mais nous n'avons pas vraiment trouvé une vraie production. Il y a des années avant où le secteur des diamants est beaucoup plus grand par rapport à aujourd'hui. Et là, les deux frères de Kabila, ils ont exporté, dans une année, ils ont exporté 12 millions de dollars. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans le secteur des diamants, il y a beaucoup de fraude. Alors c'est très difficile à savoir combien vraiment était le bénéfice de la famille. Ce qui est clair, c'est qu'ils sont un peu partout. Ils ont même des contrats avec la Banque mondiale. Ils ont des contrats avec l'ONU. Et c'est difficile à travailler au Congo, à faire des grands projets sans toucher sur la famille.
Franz Wild, journaliste pour l'agence Bloomberg, joint à Londres.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le Sénégal va disposer d'un train express régional reliant Dakar au nouvel aéroport international Blaise Diagne, en construction, à une soixantaine de kilomètres de la capitale. Les travaux, lancés hier, vont durer 2 ans. Malgré le coût du projet, environ 225 millions d'euros, les associations de consommateurs se félicitent. Abdourahman Dia a joint à Dakar Momar Ndao, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal.
Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que à la fois le train express régional va permettre donc d'accélérer les échanges entre Dakar et la dure ville de Diagne, qui est en plein essor aujourd'hui, et aussi pour l'aéroport Blaise Diagne de Dias. Donc, nous pensons que nous avons commencé à atteindre les limites donc de la fluidité qui avait été créée par donc l'autoroute à péage. On voit que maintenant la demande est tellement importante donc de transport qu'il est extrêmement important de trouver donc des moyens complémentaires pour pouvoir faire face à de transporter les Sénégalais et de leur permettre d'être mobiles.
C'est quand même un investissement lourd, 148 milliards de francs CFA, sans compter également l'entretien, le coût de l'entretien. Vous pensez qu'un pays comme le Sénégal peut supporter ces coûts?
Oui, bon, moi je pense qu'aujourd'hui, si on se mettait à dire est-ce qu'on devrait pouvoir faire certains investissements, on ne les ferait jamais. C'est ce qui a fait que l'Afrique est en retard jusqu'à présent. Certains gros investissements n'ont jamais été faits. Et aujourd'hui, nous devons dépasser cet aspect-ci qui veut que certains investissements n'ont jamais été faits, que les gens passent leur temps à investir pour manger. Si vous ne faites qu'investir pour manger, vous aurez toujours des difficultés. Mais si vous faites des investissements qui vous permettent de pouvoir développer demain les choses, oui, à ce moment-là, vous avez une chance d'émerger.
Mais des pays comme le Sénégal font souvent face à des problèmes de fourniture en électricité, alors que c'est une composante importante dans un investissement comme celui-là.
Tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de chantiers d'ailleurs sur lesquels nous aurons beaucoup de demandes d'énergie, notamment donc le TR, notamment aussi donc la désalinisation de l'eau de mer. Mais le Sénégal a opté résolument vers des investissements en matière énergétique. Et aujourd'hui, avec toutes les centrales qui sont en cours donc de construction et qui vont être livrées, non seulement nous aurons une production suffisante, mais nous avons une production qui va aller dans le sens d'une énergie de plus en plus verte, avec l'apport du solaire, etc., et le développement de certains nombres d'unités qui sont des unités vertes.
C'était Momar Ndaw, le président de l'Association des consommateurs du Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Et comme promis, on continue la série de VOA Afrique sur la crise de l'eau à Flint dans le Michigan avec Nastasia Peteuil.
C'est la voix du gouverneur du Michigan, Rick Snyder, qu'on entend. Il sort tout juste d'une réunion. Deux questions lui sont posées, le calendrier pour le remplacement des canalisations et le prix de l'eau.
Je pense que c'est une discussion saine et cela montre comment on peut avoir un système pour le long terme qui va fonctionner et comment nous allons parler des nouveaux tarifs. C'était une bonne discussion.
Rien qu'à entendre le nom du gouverneur, de nombreux visages se crispent à Flint. Pour les habitants, il est en partie responsable de la situation. Un journaliste de Michigan Radio a suivi la crise depuis les débuts. Steve Carmody explique pourquoi le gouverneur est accusé d'être la source du problème.
Snyder est de plus en plus isolé, car beaucoup de gens le montrent du doigt. Il a nommé l'administrateur d'urgence qui a pris la décision de faire le changement, et il a aussi nommé l'administrateur qui a continué à faire le changement malgré les problèmes.
Pour l'instant, 9 employés de l'État ont été accusés d'avoir caché l'ampleur du problème. Mais le procureur, dans ses poursuites, ira-t-il jusqu'au gouverneur lui-même ? Pour Steve Carmody, rien n'est encore certain.
Si vous regardez parmi les gens qui ont été inculpés, ça commence tout en bas de la hiérarchie et ça remonte vers le haut. Jusqu'où cela ira-t-il ? Nous ne le savons pas encore.
Les habitants de Flint accusent l'État du Michigan et le gouverneur de n'avoir pas réagi efficacement face à la crise. Des militants viennent de poursuivre en justice le Michigan pour le forcer à fournir des bouteilles d'eau dans toutes les maisons. Mais l'État a fait appel.
Merci Nastasia Peteuil. Demain, dernier épisode de notre série sur Flint, nous irons à la rencontre de deux pasteurs au cœur du combat. Et vous pouvez retrouver le reportage de Nastasia Peteuil sur voafrique.com.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Ça nous met dans l'ambiance, Anastasie.
Absolument.
Mais malheureusement, un peu trop tard. Hein.
Mais pas du tout, mais c'est très bien. Quelques notes. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, la console, Rachad Lamar. Présentation, Chérubin Gaby Dorsil et Anastasie Tudiache.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact, chers auditeurs, sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions auxquelles nous essaierons de répondre dans nos programmes interactifs. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet, voafrique.com, pour plus d'infos. 24 heures sur 24.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui. diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan. À Brazzaville, sur 101.9 FM. À Lomé, 99.5 FM. 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.